rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. L'été arrive, les esprits commencent à se tourner vers les vacances. Que vous soyez plutôt transat à la plage, rando sur les sommets, hamac à l'ombre ou terrasse en ville, une chose est sûre, c'est le moment idéal pour plonger dans des lectures captivantes, passer des moments exaltants et assouvir sa curiosité en écoutant de la musique, assister à des concerts ou visiter une exposition. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection estivale à la fois intense, surprenante, douce et savoureuse, de quoi passer un bel été sans s'ennuyer. Côté roman, nous vous présenterons La souffleuse du temps de Christina Caboni, La matinale de Nolwenn Leblévenec, If It Bleeds, ou en français Si ça saigne, de Stephen King, Un arabe d'Oscar Kupfan, et enfin Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély. Côté musique, il sera question des rendez-vous de septembre, des concerts qui auront lieu dans le jardin du cloître de la bibliothèque du 4 au 7 septembre, et aussi du Festival des Forêts qui commence en ce moment. Puis Amy nous présentera son coup de cœur pour un chanteur italien, Mr. Wayne, dont nous écouterons la chanson Pericolosa. Puis nous parlerons d'art également avec l'exposition Bernard Prat intitulée Fables écologiques à l'espace Saint-Pierre-des-Minimes, dont Jessie viendra nous parler. Et tout de suite, direction l'Italie avec La souffleuse du temps.
Donc La souffleuse du temps de Christina Caboni, que je vais vous présenter. Effectivement, donc, j'essaie de vous faire une petite escale en Italie. Et grâce à ce roman, en fait, l'auteur nous convie à une odyssée historique empreinte d'une profonde humanité, tissant un récit féminin à travers l'art ancestral du verre soufflé, en passant par Venise et bien sûr Murano. Christina Caboni entrelace avec délicatesse les destins de deux femmes, Juliette et Marina, séparées par les siècles mais unies par une même étincelle et la magie incandescente de Murano. La souffleuse du temps nous invite à une quête intime et émouvante. Nous rencontrons Juliette, une âme sensible à Seattle, dont l'appel irrésistible de Venise et du soufflage de verre la mène vers la prestigieuse école de Murano. Ce voyage n'est pas seulement celui d'une passion, bien évidemment, mais aussi une quête d'identité profonde ancrée dans le mystère d'un collier de perles. En parallèle, le roman nous ouvre les portes du passé avec Marina, femme du XXe siècle, dont le courage indomptable l'a poussée à défier les conventions masculines de l'atelier verrier. Deux femmes attachantes qui, chacune à leur époque, cherchent à s'accomplir sans jamais se renier. Christina Caboni dessine des portraits d'une richesse admirable, inspirant un profond respect pour leur ténacité. Le roman se construit comme un miroir, où les destins de Marina et Juliette se répondent, l'une ouvrant le chemin que l'autre emprunte avec courage. Donc ce roman poétique, délicat, tel un chef-d'œuvre de Verri, nous murmure que nos fragilités peuvent devenir nos plus grandes forces. Donc je vous le conseille véritablement.
Merci Amy. Alors moi je vais parler d'un roman français, le dernier roman de Nolwenn Leblévenec, qui avait déjà écrit Les Amis, que j'avais beaucoup aimé et déjà commenté dans cette émission. Alors là on suit Léonore, la quarantaine, en couple avec deux enfants. Elle anime en duo une émission de télé sur une chaîne d'infos, La Matinale, une émission très regardée où elle reçoit des personnalités, surtout politiques, en compagnie de son co-présentateur Alexis qui lui plaît bien. Et qui lui plaît si bien qu'elle entame une liaison avec lui. Puis, lasse de la monotonie de sa vie conjugale, elle quitte son mari, mais ne trouve pas en Alexis le réconfort espéré. Pire, ce dernier, très égoïste et imbu de lui-même, se détourne progressivement d'elle, autant sur le plan intime que professionnel, la reléguant doucement mais sûrement à un second rôle. Ainsi, progressivement, elle se sent sur la sellette, perd confiance en elle, et elle perd pied, tout simplement, et elle s'enfuit. Tout ça, elle le raconte. Elle le raconte à un psychiatre, en même temps qu'à nous, lecteurs, qui sommes à la même place que ce confident muet. Ou, enfin, quasiment mutique, car il interviendra à un moment, et pour notre plus grande surprise et grand plaisir, tant ce sera pertinent et drôle. D'ailleurs, il y a énormément de comique dans ce monologue. Léonore est pleine de lucidité, d'autodérision, et pratique volontiers le sarcasme. Et à cet humour s'ajoute un suspense bien ficelé. On comprend vite qu'elle est en attente d'un procès. Mais on reste longtemps dans l'ignorance du motif et de ce qu'elle a fait pour être ainsi internée. Et c'est là toute la malice du récit. Tout ça est très bien mené. Nolwenn Leblévenec, elle-même journaliste de presse écrite, elle nous embarque dans le milieu des médias, le bling-bling de la télévision et de la célébrité, la cruauté d'un monde fondé sur l'apparence et la quête de l'audimat. Et elle en apporte un regard acéré et satirique avec son héroïne puissante, peu attendrissante, mais plus fragile qu'elle n'en a l'air. Elle parle également très justement du couple, de la féminité, en particulier du fait de vieillir pour une femme, ou plutôt de ne plus être une jeunette, et de cette peur sourde de ne plus être à la hauteur. Son écriture est corrosive, pleine de punchlines bien senties. Bref, c'est un roman que je conseille fortement. On va changer d'ambiance maintenant avec Stephen King.
Alors, peut-être connaissez-vous « In English, if it bleeds », donc effectivement en français « Si ça saigne », qui est un recueil de Stephen King, auteur, n'est-ce pas, pas si connu que ça, qui propose ce couture littéraire innovant. Donc, en anglais, c'est « Mr. Harrigan's Phone », donc le téléphone de M. Harrigan, « The Life of Chuck », donc « La vie de Chuck », « Rat », donc « Rat », et la pièce maîtresse, If It Bleeds, donc Si ça saigne. Ce dernier récit se distingue comme une suite autonome du célèbre roman The Outsider, retrouvant le personnage de Holly Gibney. La richesse de ses narrations allie grâce humour, horreur et suspense, bien évidemment. Et l'ouvrage est également enrichi de notes d'auteurs fascinantes, offrant un aperçu assez unique sur l'origine et l'imagination débordante de King. Il est fascinant de constater cette touche de quelque chose d'indicible, délicieusement lovecraftienne, qui se dégage de ses histoires. On y perçoit aussi une exploration profonde, presque palpable, du tortueux processus de création, et l'on ressent l'angoisse très humaine que représente la page blanche pour tout artiste au travers de l'histoire intitulée « Rat ». À travers le personnage de Chuck, l'œuvre nous emporte dans un récit qui mêle habilement la vie d'un homme ordinaire à une vision de la fin du monde, le tout enrobé d'une aura de conte fantastique. C'est une narration qui touche par sa capacité à rendre l'extraordinaire accessible et l'intime universel. Enfin, dans le recueil Si ça saigne, nous sommes conviés à une incursion bien plus intense et personnelle dans la complexité de la vie familiale de Holly, offrant une perspective enrichie sur un personnage qui est déjà très familier. De manière générale, on retrouve ici, et c'est ce qui résonne tant chez les lecteurs, les thèmes qui sont assez chers au cœur de Stephen King d'ailleurs, l'impact des nouvelles technologies sur nos vies, avec donc le téléphone de Mr. Harrigan, la confrontation avec la finitude du monde, la figure de l'écrivain tourmenté par ses propres démons, donc la vie de Chuck et Rat, et l'énigme de l'au-delà et le poids lancinant du deuil avec Rat. Ces éléments, si souvent présents dans son œuvre, sont traités avec une sensibilité et une profondeur qui interpellent. Alors, trois des quatre nouvelles sont d'ailleurs en cours d'adaptation cinématographique, dont The Life of Chuck, que c'est pourquoi j'ai choisi ce titre aujourd'hui, qui est réalisé par Mac Flanagan et qui est sorti le 11 juin dernier au cinéma.
Et qui est très bien, un très bon film.
Et qui est incarné par Tom Hiddleston, alors je sais bien le prononcer, qui témoigne effectivement de l'attrait continu pour l'œuvre de King. Et le roman est disponible en anglais à Bibliothèque Saint-Cornet, mais aussi en français en bibliothèque.
Merci. Et ce film, c'est un hommage à la danse en même temps.
Oui.
C'est pas du tout l'univers qu'on connaît de Stephen King, pour le coup. Alors, musique maintenant. Du 4 au 7 septembre aura lieu la 4e édition des Rendez-vous de septembre, notre festival de musique entièrement gratuit, dans le jardin du cloître de Saint-Corneille, transformé pour l'occasion en scène musicale à ciel ouvert. Le samedi soir, nous recevrons un groupe britannique dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, The Corgis. Mais vous connaissez forcément une de leurs chansons phares. Et si vous avez plus de 40 ans, vous avez même dû danser sur ce slow langoureux « Everybody's got to learn sometime ». Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Et oui, ils seront à Compiègne. Et la veille, le vendredi 5 septembre, venez écouter le trio The Hound Dogs, qui nous offre un savoureux mélange jazz, funk, hip-hop, comme on aime. Et le premier soir, le festival est inauguré par un blues rock hyper énergique avec le groupe britannique Zach Schulz Gang. Il va nous jouer des morceaux survoltés qui vous donneront immanquablement envie de danser. Le groupe fait forte impression dans bon nombre de festivals et ses concerts récents aux Pays-Bas et en Allemagne étaient complets, preuve de sa popularité croissante. Écoutons un de leurs titres, Bailey Shannon Blues. Until we hopped in a van with James aloud and a ferry island bound. It's the place we know where the Guinness flows. Pour me one for the road. It's the place we know where people stay to watch bands night and day. I'm a million miles away and I'm here tonight to say Bailey Shannon took my blues away. I'm a million miles away.
Whiskey pouring steady and a glass of red lemonade. We're awfully sorry, try not to worry if you did not get a tea. We'll be coming back forever, making me endeavor for the music of Rory G. I'm a million miles away and I'm here tonight to say Bailey Shannon took my blues away.
Ça remue. Donc n'oubliez pas les concerts début septembre à Compiègne, dans le cloître Saint-Corneille. Moi, je vais vous parler maintenant d'un roman français qui s'appelle Un arabe. Un titre sobre mais percutant, qui suggère beaucoup, pour ce roman signé Oscar Koupfan, qu'on lit d'une traite et qui dérange, interroge, il claque comme une gifle. Dans un petit village, une vieille dame crie « Au voleur !» Elle vient de se faire dérober chez elle le contenu de son porte-monnaie, 45 euros, et sa carte bancaire. Quelqu'un se serait introduit chez elle, mais elle ne l'a pas vu. Elle a juste cru voir une ombre. Ses voisins, Patrick et Daniel, accourent. Ils aperçoivent un homme avec une casquette s'enfuir. Daniel tente de le rattraper, en vain. Ils promettent à la vieille dame de le retrouver. Mais déjà, ils ont une petite idée sur l'identité du coupable. Et si c'était l'arabe ? Celui qui vit chez Virginie l'esthéticienne. Celui qui traîne toujours en survette, casquette vissée sur la tête. Ils filent au Balto, le bar du village, raconter leur version de l'événement. Et là, tout s'emballe. Chacun réagit, y va de son commentaire. L'histoire du jour prend de l'ampleur. Tout comme une rumeur dans un village, elle s'enflamme. Chaque détail devient une preuve. Le groupe se sent légitime. Il veut justice, réparation. Les doutes ? Balayée par les plus bavards, la haine devient contagieuse et les folies acceptables dès lors qu'elles sont partagées. L'auteur nous présente chaque personne qui entre dans la discussion, dans le groupe, comme un portrait d'homme devenu meute. Un par un, nous allons les connaître, tandis que les deux figures à l'origine de l'histoire restent un peu dans l'ombre, floues, presque anonymes. Ce n'est que brièvement qu'il nous donne à voir la vieille et sa peur, et elle, c'est la vieille. Lui, c'est l'arabe, parfois l'étranger, l'autre. S'il nous présente son passé et son présent quand même, on ne connaîtra qu'à la toute fin son prénom. Car ce qui intéresse l'auteur, ce n'est pas tant le vol que ceux qui s'en emparent. Comprendre qui sont ceux qui se laissent aller à la haine. Une quinzaine d'hommes, ordinaires, banals. Ils se retrouvent au bar, ils sont vieux, jeunes, chômeurs, étudiants, patrons, radins, paumés, tous unis par une même chose, l'ennui. Et cette affaire leur donne enfin un frisson, un but, une raison d'exister. Oscar Kupfan explore encore une fois la marginalité, la plus visible, la plus stigmatisée. Et c'est celle du présumé coupable, ou plutôt de l'accusé, car personne ne s'interroge sur sa culpabilité, qui va de soi pour eux. Et avec des phrases brèves, simples, il capte l'atmosphère du village et dresse des portraits incroyablement vrais. Chaque petit détail semble confirmer la légitimité du groupe qui crie vengeance. Rapidement, chaque personnage prend forme, se singularise, tout en rejoignant la meute, participant à une montée de tension implacable jusqu'à l'explosion. Mais à l'extérieur de cette meute, une lumière, Virginie, qui l'aime. Il ne sait pas de quoi il retourne exactement, mais elle ne doute pas, elle, de son innocence. Et c'est elle qui, par un geste d'humanité, donnera enfin un nom à l'autre. C'est tendu, parfois éprouvant, mais absolument magistral.
Ça donne envie, dis donc.
Oui, hein, il est implacable, franchement. Implacable. Incroyable, ce livre, j'ai adoré.
Merci.
Alors, en même temps, c'est dur, mais je suis vraiment très agréable à lire.
Voilà. Et si facilement, quoi.
Oui, okay. Tout à fait. Alors maintenant, Jessie, tu vas nous parler d'une très belle exposition.
Et oui, parce que demain s'ouvre à l'espace Saint-Pierre-des-Minimes, vous savez, une ancienne église de Compiègne réformée en lieu d'exposition, justement une expo que je vous recommande très chaudement, celle de Bernard Prat, un artiste dont j'apprécie le travail depuis toujours. Elle est proposée tout l'été en partenariat avec la galerie compiégnoise, la galerie Bayard. Cette exposition personnelle nous plonge dans un univers aussi poétique que surprenant. L'artiste est connu pour ses installations en anamorphose, connues dans le monde entier. Il assemble des objets du quotidien, des jouets, des outils, des textes, des textiles, des déchets pour créer des portraits issus de l'histoire de l'art ou de la culture pop. Mais attention, ces visages ne se dévoilent que d'un point de vue bien précis. En effet, par exemple, Anne, si tu arrives à l'exposition et tu te mets de profil, tu vas voir, tu vas dire « c'est bizarre, il a mis plein de déchets les uns derrière les autres, qu'est-ce qu'il a voulu faire ?» Sauf que si tu te mets dans un angle bien précis, et bon, on découvre un portrait. C'est juste magique comme truc. Enfin, en tous les cas, moi, ça m'a toujours fasciné. De savoir qu'on va pouvoir le voir en vrai à Compiègne, ça peut être vraiment sympa. Alors, le reste, donc ce chaos qui devient tout à fait orchestré, c'est une œuvre à la fois technique, ludique et profondément critique de notre société. Elle interroge notre regard, mais surtout notre consommation, puisque ça reste quand même des déchets, des jouets et des résidus. Donc, c'est à la fois une façon de mêler l'humour, la virtuosité et la réflexion. Le tout interpellant le spectateur. L'exposition est à découvrir à partir de demain, inauguration à 17h et jusqu'au 31 août, à ne pas manquer. Et je voulais aussi vous parler d'un autre temps fort de l'été qui commence dès demain, c'est le Festival des Forêts. C'est un festival plus que ça même, c'est un événement unique qui mêle musique, nature et patrimoine depuis 28 ans quand même. Et alors plus on a la chance, c'est qu'à la bibliothèque, on est partenaire. Et on ne va pas accueillir juste 3 petits ateliers pour les enfants, ce qui sont absolument géniaux au passage pour les parents, pensez-y. Il va aussi y avoir des concerts, et pas qu'un, 5. Et dont un artiste que vous connaissez peut-être pas, Lucas Debargue, qui est considéré comme l'un des plus grands virtuoses du piano. Donc, on se rejoint très bientôt à la bibliothèque pour de la musique. Encore une fois.
Merci beaucoup, Jessie.
Merci.
Ça va être un bel été musical. Alors, je vais vous présenter un dernier roman, encore un roman français, mais qui nous emmène au Japon. C'est Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gelly. Il nous emmène donc au Japon en 1873, auprès d'Ibuki, une jeune fille dont le père est producteur de saké. Elle est très aimée par son père, qui voudrait lui transmettre son exploitation. Mais cet héritage, à elle, ne l'intéresse absolument pas. Car elle a un rêve, et ce rêve, c'est de devenir samouraï. Elle n'en démord pas, quand bien même un bel avenir l'attend auprès de son père et d'un jeune homme apprenti dans l'entreprise. De plus, outre que cette carrière est réservée aux hommes, la voie des samouraïs est en déclin. L'époque n'est plus au sabre, ni au code d'honneur millénaire. Alors elle quitte tout. Elle part sillonner les routes et chemins nippons à la rencontre d'un des derniers samouraïs du siècle. Akira Soro est fils de samouraï et l'un des meilleurs guerriers de sa génération. Mais il a renoncé à se battre et il s'est consacré à un autre art immémorial japonais, le thé. Et Ibuki, déguisé en garçon, va malgré tout convaincre Maître Soho de lui enseigner le maniement du sabre. À ses côtés, elle apprendra bien plus que la technique, la sagesse des samouraïs, ainsi que celle contenue dans l'art du thé. C'est une sagesse délectable, qu'on retrouve jusque dans l'écriture, faite de phrases nominales, simples, dans des chapitres courts qui vont à l'essentiel. L'art du dépouillement, jusque dans les mots, est sublimé et nous transmet la douce impression d'un temps qui s'écoule sans gravité. Sous la forme d'un long dialogue entre les personnages, l'intrigue se met en place, délicatement, subtilement, tenue par un sens du récit admirable. Il montre l'importance de la transmission et de la méditation. Leur temps de complicité va croître, jour après jour, au fur et à mesure qu'Ibuki progressera. C'est superbe. L'auteur nous emporte, avec une grande douceur, dans l'atmosphère imaginaire du Japon, de la fin de l'ère d'Edo et du début de l'ouverture consacrée par l'ère Meiji. Ce roman se lit comme un conte poétique, initiatique, dans l'esprit japonais, ensorcelant et somptueux.
Et donc ça donne envie, entre le thé, moi j'avoue que la thématique du samouraï, ça m'attire un peu moins, mais la façon dont tu le décris, ça donne envie.
Ah, c'est magnifique, c'est un petit livre vraiment qu'on peut offrir à tout le monde, et que d'ailleurs on vient de sélectionner pour le prochain prix littéraire des lycéens. Pour
l'année prochaine. Ah oui, le prix littéraire des lycéens qui a été décerné la semaine dernière.
Voilà. Et à quel auteur? Pour danser encore.
C'était sur un roman sur la boxe, je crois,
oui.
D'ailleurs.
Ouais, un très bon roman. Ouais.
Ouais. Je vois que mes collègues suivent.
On va finir l'émission avec de la musique. Mr. Wayne, le titre que nous propose Amy, c'est...
Pericolose.
Voilà. On
avec
le passe et puis... voilà.
Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente. Ogni attimo con te dura per sempre. Non vedi che non ti sa dare le cose che vorresti vivere con me. Stare con te fa del male, ma non so smettere mai, perché sei solo tu che mi fa esplodere come gli aerei quando si schiantano fra i grattacieli. Chiudo gli occhi e ci sei tu. La vita era un casino fino a ieri, ma era stupenda solo perché c'eri. Per me sei solo tu. Sarei con te come danzare sopra un campo di mine. Occhi bendati senza niente da dire. Resta con me a guardare il mondo finire. Perché la fine con te non è mai veramente la fine. Hai capito? Amore Aikido. Siamo l'ultima canzone sul tetto come i Beatles. Io e te parliamo due lingue diverse. Quando mi guardi così non riesco a dire niente. Non vedi che non ti sa dare le cose che vorresti vivere con me. Stare con te mi fa del male, ma non so smettere mai, perché sei solo tu che mi fa esplodere come gli aerei quando ti schiantano fra i grattacieli. Chiudo gli occhi e ci sei tu. Era un casino fino a ieri, ma era stupenda solo perché c'eri. Per me sei solo tu, così pericolosa. Per me tu sei pericolosa, così pericolosa. Per me, perché sei solo.
Alors, pourquoi Mr. Rain, me direz-vous ? Alors non, ce n'est pas un artiste anglo-saxon, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce titre et cet artiste. Alors Primo, c'est une dédicace touchante à un ami cher qui m'a fait découvrir cet artiste italien si singulier. Secondo, pour vous apporter de la fraîcheur en cette période quasi estivale. Et c'est une chanson qui pourra vous immerger encore mieux en Italie hein, par rapport au titre que je vous ai présenté tout à l'heure. Mr. Rain, de son vrai nom Mattia Ballardi, est un rappeur dont la particularité créative est profondément émouvante, si je puis dire, puisqu'il ne peut composer ses textes que sous la pluie. Donc c'est lui qui le dit, après voilà. C'est dans ces moments d'intimité avec le ciel qu'il puise son inspiration la plus pure. Son single évoque avec une sincérité déchirante les méandres d'une relation complexe, faite de disputes et de réconciliations. Et malgré la douleur, le protagoniste ne peut renoncer à cet amour qu'il perçoit comme le seul capable de transformer sa vie. Donc c'est une chanson assez poignante qui nous rappelle que parfois la souffrance nous est infligée, mais qu'elle peut aussi surgir des profondeurs de notre âme. Voilà, donc j'arrête là le moment poétique. Après un disque d'or pour Superhéroe en 2016, ce rappeur a connu un succès retentissant avec l'album Butterfly Effect en 2018, qui a été classé numéro 3 en Italie et s'est certifié disque de platine. Alors sa pop rythmée, où il laisse éclater quelques falsettes ou expressifs, et la profondeur de ses paroles font de lui un auteur, compositeur, interprète qui continue de conquérir les cœurs. Et vraiment, je vous conseille de le lire, enfin de l'écouter, pardon, de le lire ou de l'écouter en même temps qu'effectivement La souffleuse du temps de tout à l'heure.
Merci Amy. Donc demain, samedi 21 juin, le jour de la fête de la musique, on reste encore dans la musique. Mais on vous propose aussi BiblioZen, une séance de bibliothérapie spéciale lycéens et étudiants. Vous souhaitez vous détendre pendant vos révisions? Nous vous offrons une lecture apaisante et positive. Un moment pour vous, à votre rythme. Rejoignez-nous librement sur le créneau entre 14h et 18h à la bibliothèque Saint-Corneille.
Si je peux me permettre, Anne, la petite séance, ça dure 15 minutes. En fait, il suffit de descendre pour ceux qui sont en train de réviser dans les étages. On fait quelques petites lectures et on remonte. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous avaient dit « Mais dis donc, la séance, elle est longue. » Non, non, mais ça dure 15 minutes, je vous rassure tout de suite.
Et c'est dans le jardin, s'il fait beau.
Dans le jardin, s'il fait beau. Ça a l'air bien parti, en fait.
Ouais.
Un peu chaud. On s'hydrate.
Ouais. Les soirées Béligeux continuent tout le mois de juillet. N'hésitez pas à venir jouer à la bibliothèque Bélicard les mardis à partir de 20h30. Et à propos de jeux, le prochain Fab Lab aura lieu le samedi 28 juin à 14h. Venez découvrir le monde fascinant de la fabrication numérique et ses applications possibles autour du jeu. Une séance de découverte pour vous familiariser avec l'univers du Fab Lab, un espace dédié à la création, à l'innovation et à l'expérimentation. Le prochain apéroculture à la bibliothèque Saint-Corneille aura lieu le samedi 28 juin à partir de 11h. Venez nombreux discuter de livres, de films, découvrir nos nouveautés. Et pour notre émission, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 septembre à 18h. Et d'ici là, passez un très très bel été. Merci beaucoup Amy, Jessie, Aurore et puis nos deux stagiaires de seconde qui étaient là dans le studio. Et la stagiaire aussi Mathilde d'Aurore. Là on était nombreux aujourd'hui sous cette chaleur. Et un très bel été.